Là, vous écoutez un podcast. Mais au fond, c'est quoi un podcast? D'où ça vient? Qui sont les acteurs? Et surtout, comment ça fonctionne? Je vous emmène aujourd'hui pour un épisode exceptionnel de L'Apprenti sur les traces du podcast en France. Alors d'accord, hein, je sors de ma ligne habituelle, mais vous allez voir, le podcast, c'est aussi toute une histoire. Bienvenue sur L'Apprenti. Alors L'Apprenti, c'est quoi? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte. Simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Brouin, je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans et c'est toute une histoire. Est-ce que vous savez ce qu'est un podcast? Alors prenons une définition simple. Le podcast, c'est du son créé pour le web et diffusé gratuitement et automatiquement. Le podcast est notamment diffusé grâce à ce qu'on appelle le flux haut flux RSS. RSS en français, syndication réellement simple. Donc c'est une méthode qui permet automatiquement des échanges de données entre sites. Parlons simplement d'ailleurs avec cette vidéo de Mademoiselle.
Eh oui, Louise, un podcast c'est de l'audio, ça écouter quand tu veux, où tu veux.
Formidable, ça veut dire que je peux les écouter partout et tout le temps.
Eh oui, aux chiottes,
dans ta cuisine, pendant le ménage,
dans ton lit.
Le podcast c'est un fichier audio que tu peux télécharger directement sur ton smartphone.
Ou alors tu peux télécharger pour mettre sur ton lecteur MP3 ou alors l'écouter directement en ligne.
En fait il existe deux types de podcasts. Les premiers c'est ceux que tu écoutes pour rattraper une émission que t'as loupée à la radio.
C'est ce qu'on appelle dans le jargon la radio de rattrapage.
Et les podcasts natifs,
qui sont faits par des passionnés de façon complètement indépendante et mis directement sur internet.
On les aime.
Donc, comme le dit cette jeune femme de Mademoiselle, rappelez-vous, deux types de podcasts. Les podcasts de rattrapage, qui sont des reprises d'émissions de radio, et des podcasts natifs, qui sont créés uniquement pour le web. D'ailleurs, le mot podcast vient de la contraction entre iPod et broadcast, et a été inventé par un journaliste anglais, Ben Hammersley, en 2004, dans le journal The Guardian. Voilà ce qu'il disait. Les lecteurs MP3 comme l'iPod d'Apple dans de nombreuses poches, les logiciels de production audio bon marché ou gratuit et le weblogging, une partie bien établie de l'Internet. Tous les ingrédients sont là pour un nouvel essor de la radio amateur. Mais comment l'appeler? Audioblogging, podcasting, guérilla média? Et donc, le terme podcast naît en 2004. Mais le podcast, c'est un médium bien plus ancien que 2004, puisqu'il est né en 2001 aux États-Unis. Octobre 2001, Cambridge, Massachusetts. Tristan Louis, un Français cocorico basé aux États-Unis, est le tout premier à proposer d'attacher audio et vidéo dans des flux RSS. Mais c'est Dave Winner, un ingénieur basé à Cambridge et intervenant à l'université de Harvard, qui reprend les suggestions de Tristan Louis et qui rattache les fichiers audio et vidéo à un flux RSS. Ah, c'est sûr que c'était mieux si c'était un ingénieur. Dave Winner est tellement convaincu par cette technologie de diffusion de l'audio qu'il finit par convaincre Christopher Lydon, un de ses collègues à Harvard. Depuis déjà un an, d'ailleurs en 2002, Christopher, journaliste et professeur à Harvard, accumule des interviews audio sur un blog, mais il est réellement frustré par la faible diffusion. Dave Winner l'aide alors et transforme petit à petit toutes ses interviews en flux RSS. Ce podcast va devenir le premier vrai podcast au monde en 2003. Puis, Adam Curry, un ex-présentateur sur MTV qui travaille notamment avec Winner depuis 2000, continue l'évangélisation du flux RSS en lançant le premier podcast de masse, le Daily Source Code en 2004, et notamment il va faire beaucoup de conférences, beaucoup d'événements pour évangéliser le flux RSS. Winner, Lydon et Curry sont les fameux podfazers, ces inventeurs et évangélisateurs de la première heure du podcast entre 2001 et 2004. En France, le podcast apparaît en 2002 sous la houlette de Arte qui crée Arte Radio. C'est le journaliste Sylvain Gire qui est chargé du projet avec le monteur Christophe Rau. Ils ont un seul mot d'ordre, liberté de ton. Ils veulent donc construire un média adapté au web qui parle autrement de société, de politique, autrement dit, un média décalé et intimiste, anticulturel et même anticommercial. Ils privilégient d'ailleurs l'expérimentation et un style en rupture. Pour eux, pas de souci d'audience, la liberté est plus grande et ainsi les producteurs peuvent s'affranchir de l'uniformisation des contenus qui est inhérente aux grands médias. Des dizaines de podcasts vivotent pendant ces années-là. 2006, rappelez-vous, 2002-2006, le podcast est alors vu comme l'équivalent de la radio libre. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, il y a plein d'initiatives personnelles qui émergent. C'est ce que d'ailleurs m'a expliqué et m'explique Patrick Béja, qui est un des premiers podcasteurs français qui s'est lancé en 2006.
On va dire qu'on n'était pas nombreux, effectivement, à l'époque. C'était le tout début du podcast. Si je ne me trompe pas, même les protocoles techniques du podcast, c'est-à-dire l'ajout de fichiers audio au flux RSS, techniquement, ont été créés en 2005, je crois. Oui.
Mais ce qui a vraiment changé dans l'histoire du podcast, que ce soit d'ailleurs en France ou aux États-Unis, c'est quand Apple a introduit dans son App Store l'application podcast, d'abord en 2005, puis sur l'appli iPhone, et donc dans l'App Store en 2012. Entre-temps, en 2010, Radio France permet à ses auditeurs d'écouter ses émissions radio sur son site et donne un véritable coup de boost au podcast. Mais il faudra attendre les années 2016-2017 avec l'arrivée de toutes les radios institutionnelles comme Europa RTL, puis les studios de podcast pour voir la deuxième naissance du podcast en France. Aux États-Unis, c'est l'année 2014 qui marque un réel tournant avec le lancement de la série Serial, une histoire vraie du meurtre d'une lycéenne racontée épisode après épisode. Surtout Serial, c'est aussi et avant tout une contre-enquête. D'ailleurs, pour info, hein, ce qui est marrant, c'est que les États-Unis, en tout cas le procureur, va réouvrir l'enquête suite à ce podcast. Et on peut le dire, Serial va permettre aux Américains de se mettre au podcast cette année. Serial compte d'ailleurs aujourd'hui plus de 5 millions d'écoutes en cumulé. On est donc passé d'un média intimiste et anti-système à un média presque grand public depuis 2017, de Arte Radio au studio de podcast. La transformation a réellement été importante. Mais concrètement, combien de Français écoutent des podcasts et surtout, que nous disent les chiffres ? Premier chiffre qui est marquant, un Français sur 10 écoute un podcast natif aujourd'hui. 21% écoutent des podcasts de rattrapage, selon l'étude Acast 2020. Au Royaume-Uni, les podcasts natifs sont désormais plus écoutés que ceux du replay radio. C'est un bon indicateur pour nous sur les années à venir, conclut Yann Thébault, directeur d'Acast France. Le potentiel de croissance est important quand on sait que, grosso modo, aux États-Unis, le podcast est écouté 6 heures par semaine contre 11 heures pour la radio et 28 heures pour la télé. On a encore un peu de marge. Hein. Le profil des personnes qui écoutent les podcasts est encore assez marqué. La personne, grosso modo, a 34 ans, vit à Paris et gagne relativement bien sa vie. Tous des gens qui ont des iPhones d'ailleurs. Hein. Donc des gens plutôt jeunes, en milieu urbain, CSP+. C'est d'ailleurs ce que souligne l'étude Havas 2020 présentée au Paris Podcast Festival.
Et sur les 25-34 ans, comme je le disais, on est quasiment à un quart de cette population, puisqu'on est à 26% en progression de 11 points par rapport à l'année dernière. C'est des auditeurs de plus en plus accros. 67% des auditeurs hebdo ont augmenté leur fréquence d'écoute par rapport à...
Mais, et c'est un grand mais, avec la popularisation du média, de nouvelles couches de la population sont en train de s'y mettre, notamment à travers le rattrapage de la radio. Toujours selon le baromètre Acast, 86% des écoutes se font sur mobile, et se fait d'ailleurs toujours, à grande majorité, sur l'application podcast de Apple. Mais la part de marché de l'application Apple a chuté ces dernières années, passant de plus de 80% à seulement 63%. D'autres acteurs ont investi la place, et notamment Spotify, qui représente près de 10% des écoutes. Spotify est ainsi passé d'une approche centrée uniquement sur la musique à une approche audio first, plus seulement de la musique, mais tout type de contenu audio, et est devenu en 2 ans la deuxième plus grande plateforme d'écoute. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce retour au podcast ? Qu'est-ce qui fait que les écoutes explosent ? Allons un peu plus en profondeur. Alors, la consommation des podcasts explose et ne semble pas s'arrêter. Plutôt que de parler de podcasts, d'ailleurs, il faut parler de l'essor de l'audio. l'audio en particulier, la parole, comme je fais avec vous là maintenant, est extrêmement riche en contenu informatif. C'est le média de l'information par excellence et surtout le média de l'intimité. Comme elle expliquait d'ailleurs Chloé Ancelin de Madame Lacbeau, le podcast est un moyen de décrocher, c'est une parenthèse intime, c'est un moment pour soi. Souvent d'ailleurs on l'écoute avec des casques, des écouteurs, et c'est vraiment un moment pour soi. Le podcast c'est aussi, et la voix en particulier, un média chaud qui par le jeu de la musique et de la voix crée un transfert, une relation avec l'audience privilégiée. Le son, c'est l'émotion. Et cette émotion rentre directement dans notre oreille. Nous nous attachons au narrateur comme un membre de la famille. Alors dans mon cas, hein, tous les étés, quand on partait en vacances, je suis breton, hein, voilà. Quand on partait en vacances, souvent, quand on s'éloigne de la montagne, on va loin, et donc on prenait la voiture, on faisait 7-8 heures de voiture, et on écoutait Pierre Bellemare toutes les vacances, quand on partait dans la voiture. Et pour moi, Pierre, puisque j'aime du coup, on peut le dire, faisait presque partie de la famille.
Quand une jeune femme épouse un vieux mari décevant, elle ne peut que se réjouir de sa mort. Mais quand elle refait sa vie avec un beau garçon, il ne faut pas que les fantômes apparaissent.
Je ne pouvais pas vous empêcher, en tout cas m'empêcher, de vous diffuser un extrait de cette voix si caractéristique. Du coup, globalement, je vois 4 raisons qui expliquent le succès de l'audio et du podcast en particulier. Première raison, la technologie. La multiplication des appareils audio portables, notamment les AirPods, des voitures connectées, des haut-parleurs intelligents, Alexa, Google Home, sont partout. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus de gens porter leur AirPod en permanence. Lorsque ces personnes ne sont pas au téléphone, elles écoutent de la musique ou des podcasts. Il s'agit vraiment d'un changement de paradigme dans le comportement de consommation des médias. Deuxième raison, c'est la commodité. Alors, l'audio fonctionne pour des moments interstitiels, c'est-à-dire promener le chien, dans la voiture, au gymnase, en faisant la cuisine, et surtout, contrairement à ce qu'on le croyait, les usages sont forts à la maison, et pas seulement en situation de mobilité. Je répète, la majorité de l'écoute des podcasts se fait à la maison, puis dans un véhicule. Contrairement à la télévision qui requiert la plus grande partie de votre attention, vous pouvez écouter des podcasts tout en faisant à peu près n'importe quoi d'autre. Troisième raison, il y a une explosion des contenus, notamment des contenus de qualité. Le large choix de podcasts sur littéralement n'importe quel sujet permet aux usagers de consommer exactement ce qu'ils veulent. Cela va des actualités quotidiennes à la narration en passant par les talk shows. Pour vous donner un chiffre, le nombre de podcasts est aujourd'hui évalué approximativement à 2 millions en 2020. Pour vous donner une idée, en 2019, ils étaient approximativement de 700 000. Donc on a plus que doublé le nombre de podcasts en une année. Quatrième et dernière raison, c'est ce que j'ai appelé la fatigue de l'écran. À l'heure des zooms qui s'enchaînent, il y a un véritable plaisir à passer sur l'audio et à se reposer. Je pense notamment, ça moi c'est le cas pour mes enfants, je pense notamment au développement de la Fabrique à Histoire, qui est un boîtier qui a été créé par l'UNI, qui permet d'écouter des histoires et qui notamment remplace les dessins animés pour les enfants. Pourtant, malgré ce retour à la voix et à l'audio, le podcast a de vrais problèmes structurels qui empêchent les podcasteurs qui se lancent, et notamment ceux qui se lancent là en ce moment, de vraiment en vivre sereinement. Le premier problème du podcast est la découvrabilité. Mal référencé et beaucoup moins viral que la vidéo, le podcast est dur à être trouvé. Les plateformes d'écoute, d'ailleurs, ont un outil de recherche très mal fait, et qui met surtout en avant des podcasts connus. Il vous suffit d'aller voir la page d'accueil d'Apple Podcasts, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a peu ou pas de découvertes. Et quand on se lance avec son podcast, il n'y a pas d'autre option que de faire la promotion sur les réseaux sociaux et par le bouche à oreille. Certaines startups essaient de s'attaquer au problème aux US ou en France, que ce soit avec Podmeuse, Pods, P-O-D-Z, mais finalement, c'est bien Apple qui devrait s'y attaquer vraiment, car l'appli podcast n'a quasiment pas changé depuis 2005. Deuxième problème du podcast, c'est la concentration de la consommation des podcasts. On écoute peu de podcasts et du coup, on ne prend pas le temps d'en découvrir de nouveaux. Aux États-Unis, 86% des auditeurs de podcasts écoutent de 1 à 10 podcasts. Comparez cela au nombre d'articles ou de magazines différents que vous pouvez lire au cours d'une semaine donnée et vous comprenez forcément la consommation des podcasts est réduite, mais surtout concentrée. Donc, découvrabilité plus concentration de la consommation et vous avez une barrière à l'entrée qui est importante. Selon l'étude de Libsyn, le nombre de téléchargements moyen pour un podcast est donc de 134. Et de l'autre côté, 1% des podcasts dépassent les 35 000 téléchargements par épisode. Le phénomène de concentration est encore plus marqué dans le podcast. Troisième problème, c'est la monétisation. Les podcasteurs ont encore du mal à monétiser leur audience. Peu de podcasteurs, et notamment ceux que j'ai interrogés, arrivent à en vivre, même s'il existe différentes sources de revenus. Alors justement, quelles sont ces différentes sources de revenus? D'abord, la publicité. Première source de revenus, qu'on la place au début, au milieu ou à la fin du podcast. Cette publicité est d'ailleurs réalisée soit par l'annonceur directement, soit lue par le host du podcast. Et en France, le CPM, donc le coût par mille, varie pour le premier type de publicité donc automatique, c'est entre 7 et 10 euros au coût par mille, et entre 50 et 100 euros au coût par mille quand l'annonce est lue par le host. Donc imaginez bien que quand on a 5 ou 6 000 vues, ou en tout cas écoutes sur son épisode, pour gagner entre 42 et 300 euros, ce qui est déjà pas mal, ça reste quand même des sources de revenus limitées. Deuxième source de revenus, les dons demandés par les podcasteurs. C'est la deuxième source de revenus. On demande souvent à la communauté une aide régulière avec des outils comme Patreon ou Tipeee. Par exemple, Patrick Béja de French Spin utilise beaucoup cette façon de gagner sa vie. Troisième source de revenus, c'est ce qu'on appelle les podcasts de marque, qui sont donc la création avec une marque d'un podcast dédié sur une thématique précise. D'ailleurs, ici, on se rapproche d'un modèle d'agence de com. Pénélope Boeuf, Laurent Stock sont deux podcasteurs qui m'ont parlé et qui le font d'ailleurs, la création de podcasts de marque. Dernière source de revenus qui sont les revenus indirects. Par exemple, Louis Média propose de participer à un club où on paye tous les mois pour recevoir des offres et des formations en exclusivité. Et d'autres podcasteurs vont utiliser notamment la vente de produits ou de billets à des événements. Dernier problème dont le podcast souffre, c'est les données. Alors là, le problème des données, c'est un gros problème dans le podcast, et notamment la mesure fiable des données. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'utilise encore, depuis que j'ai lancé mon podcast, l'apprenti. Et pour faire simple, il me dit que j'ai un certain nombre d'écoutes. Là, j'en ai 2000 depuis 2 mois. Mais je ne connais pas les abonnés réguliers. Je n'arrive pas à savoir si sur ces 2000, combien de gens ont écouté jusqu'au bout et combien de gens ont arrêté au bout de 10 secondes. Parce que je peux vous dire, ça fait une grande différence entre ceux qui arrêtent au bout de 10 secondes et ceux qui continuent. Bref, on est encore loin d'avoir des données pertinentes. Heureusement, de plus en plus d'hébergeurs font valider leurs données par des instituts de mesure comme l'ont fait Acast ou Ocha. Et malgré tous ces problèmes, on a tout un écosystème qui continue de se développer autour du podcast, un écosystème actif et fourni. Quels sont donc les acteurs du podcast en France? Alors pour faire simple, hein, moi j'ai divisé les acteurs du podcast en France sous deux catégories. D'abord ceux qui font des podcasts et ceux qui vivent autour de ceux qui font des podcasts. Et dans ceux qui font des podcasts, voici trois acteurs. D'abord, les médias, qu'ils soient radio ou même journal, qui font des podcasts natifs et des podcasts de rattrapage, comme Radio France, côté radio évidemment, qui est un des plus gros, ou bien Les Échos, Slate ou Le Parisien, qui ont de très très bons podcasts natifs. Deuxième type d'acteurs, ce sont les sociétés de production spécialisées en podcast, comme Binge Audio, Louis Média, Nouvelles Écoutes, tous ces acteurs-là qui vivent de plusieurs sources de revenus, d'abord leurs podcasts avec la publicité, des podcasts de marque, mais aussi d'autres modèles économiques. Et puis enfin, vous avez les podcasteurs ou les podcasts indépendants, comme Le Gratin, Génération Do It Yourself, Vlan, qui sont des podcasts connus, mais qui ne sont pas nécessairement adossés à des studios de podcast. Puis, vous avez tout l'écosystème qui vit autour du podcast. Vous avez d'abord les hébergeurs qui vont héberger votre podcast, Ocha, Encore, Libsyn, Mégaphone. Ensuite, vous avez les plateformes d'écoute sur lesquelles vous écoutez ces podcasts, que ce soit Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, Spotify. Vous avez ensuite les événements dédiés à cet environnement, Paris Podcast Festival, Le Pod, MP3, ou bien les médias spécialisés, Podmust, Le Pod, bref. C'est tout un écosystème qui s'est créé et qui commence à s'organiser en France avec comme tête de pont les radios, hein, faut pas l'oublier, notamment les podcasts de rattrapage, mais Faut bien le dire, le podcast natif a encore un potentiel énorme avec ses acteurs dédiés. Et d'ailleurs, ces acteurs dédiés, j'en ai interrogé une bonne vingtaine pour récolter leurs idées et leurs conseils. Et je vous propose donc leurs 7 conseils pour se lancer et vivre aujourd'hui de son podcast. Voici donc les 7 conseils, 7 conseils que les podcasteurs m'ont donné lors de mes interviews. Alors, premier conseil. Sur le podcast, ce qui compte, c'est de durer. Encore une fois, la difficulté, c'est pas de se lancer, mais vraiment de durer. Lancer un podcast est simple aujourd'hui. Un iPhone, un micro, un invité, et le tour est joué. Et de nombreux podcasts s'arrêtent au bout de 7 épisodes, car les gens comprennent le travail qu'il faut pour durer. Comme me le disait Hervé Robolt, le podcast, c'est avant tout un sport d'endurance. Deuxième conseil, quand on crée un podcast, il faut réfléchir à l'intention. Pourquoi je crée ce podcast? Quel est mon objectif? Quel message je veux faire passer? L'intention se retrouvera dans le choix des invités, dans le choix des questions, dans les images et tout ce qui entoure le podcast. Comprendre le pourquoi, ça permet aussi de durer. C'est aussi le conseil d'une podcasteuse connue qu'il rappelle ici.
L'objectif, il est important. Quel est ton objectif avec ton podcast? Quelles sont tes attentes avec ton podcast? Tout simplement parce que quand tu vas le créer, que tu vas le diffuser, que tu vas le réaliser, plus tu sauras pourquoi tu le fais, plus tu auras la motivation, tu auras l'énergie, l'inspiration pour continuer de le faire régulièrement.
Troisième conseil, ne pas écouter les conseils car on ne sait jamais ce qui marche en podcast. C'est Pénélope Boeuf qui m'a raconté cette anecdote. Au démarrage de son podcast, elle est allée voir un ami journaliste qui lui a dit « Mais ton podcast, il va jamais marcher. Tu fais tout le contraire de ce qu'il faut faire. Tu fais un podcast très court et en plus tu racontes ta vie. » Le podcast a cartonné. Quatrième conseil, avoir des invités tête d'affiche pour attirer les auditeurs. Ça marche et ça permet de donner de la visibilité aux autres épisodes. Le podcast est le seul média de longue traîne. Le dernier épisode vu amène des auditeurs sur tous les autres épisodes. C'est un effet magique que l'on ne voit pas ailleurs. Cinquième conseil, allez chercher les gens qui écoutent déjà des podcasts. Si vous cherchez des auditeurs, allez vous faire interviewer par d'autres podcasteurs. C'est probablement une des façons les plus efficaces pour développer son audience. Sixième conseil, trouvez une niche sous-exploitée sur les podcasts et y foncez. C'est ce que Barthélémy Fent a fait sur les interviews de sportifs dès 2018. Il s'est notamment rendu compte que les grands médias du sport n'avaient pas encore investi le podcast et il s'est engouffré dans la brèche. Et ça marche, ça cartonne même. Il y a encore beaucoup de niches à prendre, le podcast n'a pas encore atteint sa maturité. Septième et dernier conseil, avec le podcast, vous pouvez tout faire. Le podcast est un média de liberté où tout peut se dire. D'ailleurs, on y trouve des sujets très bien traités, des sujets d'ailleurs un peu lourds comme l'inceste, le viol ou même des podcasts très vulgaires. Il n'y a pas de limite dans les podcasts, comme me le disait Chloé Ancelin. Lâchez-vous et testez. Bon, je vous fais une petite conclusion de tout ça. Allez, c'est parti. Alors, le podcast en France et dans le monde d'ailleurs, plus globalement, vit un âge doré. Une explosion des écoutes, des usages adaptés à nos modes de consommation en voiture, chez nous, avec des AirPods, avec des Alexa. Bref, un média qui transmet émotion, information. Bref, le podcast vit une deuxième jeunesse après sa création en 2001 par les Podfazers. Mais il y a des problèmes structurels importants, comme la découvrabilité, la monétisation, la surconcentration des écoutes sur peu de podcasts. Alors, vivre aujourd'hui son podcast est un défi. Et malgré tout, de nombreuses personnes se lancent dans ce marathon, le marathon du podcast. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on s'arrête. Mais le podcast, c'est aussi et avant tout un milieu de passionnés irréductibles, et c'est ce que j'ai compris pendant mes interviews. Alors avant tout, merci à eux, merci à ces podcasteurs qui m'ont donné leur temps pour réaliser ce documentaire. Patrick Béja, Pénélope Boeuf, Dimitri Régnier, Laurent-François Jeune, Sylvère Durand, Sophie Comte, Jasmine Manet, Hervé Obolt, François-Xavier Guillet, Chloé Ancelin, Barthélémy Fent, Enger Sarr, Alexandre Penaud, Raphaël Grieco, Laurent Stock, Quentin Franck et enfin Perrine Grua. Merci beaucoup à eux et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté L'Apprenti. Ce podcast, ce sont des heures et des heures de travail et de recherche. Et votre écoute est très précieuse pour moi et pour toute l'équipe qui est derrière. Gaëtan, Eric et tous les autres. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Et si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Et pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, vous savez, les petites infos non divulgables, les citations, etc., abonnez-vous à notre lettre sur l'apprenti.fr. Vous y retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.